Bonjour Bruno Latour, merci beaucoup de répondre à mes questions. L'enquête que vous proposez aux lecteurs, que vous nous proposez à tous, repose sur la possibilité d'établir une distinction entre l'expérience que les modernes ont de leurs valeurs et le compte-rendu qu'ils en donnent. Compte-rendu qu'ils ont donc transposé au reste du monde. Mais ce reste du monde décide qu'il n'est pas du tout un reste, dites-vous. Donc, une nouvelle situation de relative faiblesse, qui offre une excellente occasion d'écarter le compte-rendu officiel et de redéfinir autrement les valeurs par cette notion de mode d'existence. Le but de l'entreprise, de votre entreprise, de notre entreprise, de l'entreprise que vous nous proposez, offrir des comptes-rendus alternatifs qui feront l'objet, après, d'une diplomatie. Donc, le rapport provisoire d'une enquête collective qui peut enfin commencer, c'est votre livre. D'accord? Mais espérez-vous vraiment que d'autres que vous puissent apporter ou inventer d'autres modes? Vous avez défini 15 modes, enfin 12 plus 3, et avec ces modes, d'autres comptes rendus. Parce que j'ai l'impression peut-être que vous pêchez par optimiste, vous travaillez depuis 20 ans dessus. C'est le sommet de votre recherche, de votre apport intellectuel. Vous êtes en rapport depuis très longtemps et en relation avec de très nombreux autres chercheurs. Vous êtes reconnu internationalement. Et vous êtes en plus Bruno Latour, un créateur, un philosophe, un anthropologue de tout premier plan. Alors, ma question un peu à brûle-pourpoint, qui voulez-vous qui puisse être assez créatif et assez au point pour apporter quelque chose à cette enquête?
Ah, au contraire, je pense que je n'ai fait qu'un rapport provisoire et je n'ai fait que toucher, en utilisant les études de terrain, les questions que j'aborde dans ce livre, qui sont nécessairement collectives. Elles sont collectives pour deux raisons. D'une part, parce que ce que j'ai capté, moi, des expériences, dont je prétends qu'elles sont quand même assez fidèles, n'est qu'une toute petite partie, de ce sentiment expérimental, disons. Et d'autre part, parce que la diversité des comptes rendus qu'on donne de ces expériences est très vaste. Et donc, il est au contraire absolument indispensable que l'enquête ne valide pas les positions d'un auteur parmi d'autres, même si je vous remercie, c'est un auteur compétent et qui a beaucoup travaillé. Il est néanmoins complètement particulier. Et il n'a d'avantage, cet auteur, que d'avoir lancé l'enquête. Donc, c'est un peu comme si, lorsqu'on passe un questionnaire, dans une enquête tout à fait classique, évidemment, l'auteur fait le questionnaire, mais c'est les réponses qui comptent. Donc le travail d'enquête, au contraire, à mon avis, commence et est beaucoup plus important que le rapport provisoire que j'ai soumis à l'analyse des lecteurs. Même si, évidemment, maintenant, on va valider de façon assez différenciée à la fois les 15 modes, donc quand vous dites est-ce qu'il y en aura d'autres, oui, mais ça, c'est le travail devra être fait par les co-enquêteurs. J'avoue que j'ai un peu de peine pour le moment à imaginer la masse de travail qu'il faudrait faire pour en rajouter, mais c'est tout à fait ouvert. Ça, c'est une question complètement ouverte. Les modes que j'ai mis en avant sont des modes contingents. C'est ceux qui me paraissent le plus, disons, permettent une description un peu moins irréaliste des modernes, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Il y a d'ailleurs des tas de gens qui sont en train de travailler déjà. On a commencé à recevoir des propositions pour d'autres modes, mais il faut qu'ils fassent le boulot complet.
Et après, à vous et avec l'équipe d'analyser ces modes pour vérifier. Il y a tout un travail de vérification, du coup, après.
Ben, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'en fait le projet va dériver, et c'est le but de l'opération. Il va dériver de plus en plus. Donc au début, ce qui m'intéresse, moi, je vais dans le site que nous sommes en train de construire. Je vais signaler mes propres questions, c'est-à-dire les lacunes innombrables de l'enquête et les proposer en quelque sorte à l'analyse, en faisant une espèce d'appel au secours ou d'appel d'offres. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir des groupes qui vont s'organiser assez indépendamment et de plus en plus indépendamment, d'ailleurs probablement en dehors de la plateforme complètement, et qui vont se poser des questions à eux qui ne correspondent pas forcément du tout à mes questions d'origine. Et c'est ça le but. L'idée, c'est que la fortune critique du livre soit organisée, disons, et ouverte. C'est assez inhabituel, parce que d'habitude, on s'intéresse à l'auteur. Là, on s'intéresse beaucoup moins à l'auteur, on s'intéresse beaucoup plus au... Ah oui, alors, est-ce que ça donne des moyens pour analyser telle ou telle situation, nouvelle?
Alors, mes questions maintenant vont porter sur deux modes, le mode métamorphose et le mode fiction. Donc, métamorphose, c'est restituer, c'est cette partie restituer les êtres de la métamorphose, et fiction, cette partie situer les êtres de la fiction. Vous posez la question, pourquoi les modernes s'en sont-ils tenus à un si petit nombre de gabarits ontologiques, alors que par ailleurs, ils faisaient proliférer tellement d'innovations, de transformations, de révolutions. Et alors, je voudrais ajouter à innovation, transformation, révolution, alors que par ailleurs, les modernes faisaient proliférer autant de fictions et autant de personnages de fiction qui sont des sortes de gabarits, certes, qui n'atteignent pas à l'ontologie. Alors, est-ce que les modernes ne répondent pas à leur anémie ontologique, vous employez le terme d'anémie ontologique, par un usage effréné de la fiction?
Non. Enfin, je ne sais pas comment vous posez la question. La fiction, il y a mille façons de définir la fiction. Le terme, évidemment, lui-même est ambigu parce qu'il a l'air de dire que c'est faux. Et alors que tout le travail qui est fait, d'ailleurs, pas simplement par moi, mais par beaucoup d'auteurs en études littéraires, c'est au contraire de redonner de l'objectivité aux êtres de la fiction, mais en les situant un peu en dehors de cette espèce de respect un peu condescendant dans lequel on les met généralement, c'est-à-dire suspension of disbelief en anglais pour prendre c'est l'endroit où la question du vrai et du faux ne se poserait plus ou se poserait moins. Or, au contraire, tout artiste sait bien qu'il y a une espèce d'installation et d'objectivité des êtres de fiction qui est très exigeante. Il suffit d'ailleurs, ça c'est un des sujets de l'enquête, comment les gens parlent et transforment les êtres de fiction quand ils ont assisté à un concert ou vu un film ou une pièce de théâtre, etc. Et comment les artistes eux-mêmes parlent de ce qui tient ou qui ne tient pas. Donc il y a un sens extrêmement précis du vrai et du faux dans les êtres quand on rencontre des êtres de fiction, qu'on soit artiste ou qu'on soit amateur, et qu'on essaye justement de préciser. Alors moi j'ai juste fait un début d'analyse, mais là on aimerait beaucoup avoir les retours en quelque sorte de la façon dont par exemple on se forme le goût. Et se former le goût pour une œuvre, c'est reconnaître une objectivité qui est tout à fait particulière et dont le gabarit ontologique est très précis, qu'il ne faut pas mélanger avec d'autres gabarits. Et donc là c'est vraiment un cas où l'enquête s'offre un vaste terrain d'expérience. On commence d'ailleurs avec des étudiants à moi à analyser la façon dont on change son jugement collectivement par le travail critique ou en lisant des critiques d'autres œuvres. Il y a toute une élaboration très subtile de cette objectivité qui ne correspond pas du tout à la suspension of disbelief et qui a cette particularité que les êtres ont besoin de nous pour exister, mais ils existent quand même bien. Donc ça, c'est un poids, en quelque sorte, objectif qu'il faut arriver à respecter.
Parce que ces êtres de fiction, est-ce qu'il serait possible de les réunir, et alors sur un fil très tenu, avec les êtres de la métamorphose, à certaines conditions, bien entendu, ils n'ont pas d'ontologie, mais ils ont un pouvoir d'influence, ils ont une efficace, les personnages de fiction. Est-ce que c'est possible de les relier aux êtres de la métamorphose?
Ils ont une ontologie très exigeante, les êtres de la fiction. C'est le but. Si on a plusieurs gabarits ontologiques, on peut leur donner le poids d'être qui leur correspond. La confusion avec les êtres de la métamorphose, on a un test dans le site qui est très... par exemple, lorsque beaucoup de fois on rencontre les êtres de la métamorphose qui sont, disons, tous ces êtres qui nous font nous transformer et qui viennent de l'extérieur, même si on dit souvent qu'ils sont intérieurs à notre psychisme, mais qu'il suffit de regarder attentivement pour voir qu'ils sont très extérieurs, enfin qu'ils viennent d'ailleurs en tout cas. Ces êtres-là, si on les prend pour des êtres de fiction, généralement les gens ne sont pas très contents. Donc c'est là exactement encore une fois un sujet d'enquête. On a eu ce sujet avec Vinciane Després quand elle a venu présenter son livre sur les morts. Beaucoup de gens vivent avec des morts, vivent d'une façon assez intime avec des personnages qui sont décédés. Si on leur dit « Ah oui, mais alors donc c'est une histoire que vous vous racontez », ils ne sont pas contents. Non pas parce qu'ils disent que ces êtres existent sous la forme de cette table ou de ce magnétophone, mais parce qu'ils utilisent de nouveau un gabarit ontologique qui est différent des êtres de fiction, mais aussi différent des tables et des magnétophones. Et donc c'est ça qu'on essaie de capter, c'est la diversité des gabarits que nous utilisons pour rendre compte de ces êtres. Et si on pose à un être de fiction la question est-ce que vous existez ou pas comme cette table, c'est idiot. Mais si vous utilisez cette même question sur les êtres de métamorphose, c'est aussi idiot. Donc, ce qu'il faut arriver, c'est à capter la façon intelligente de parler de ces êtres. Et voilà un croisement typique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut les confondre ? Oui, parce que n'importe quel positiviste, un psychiatre positiviste dira vous racontez des histoires, mais c'est que dans votre tête, ça n'a pas d'existence. Et ça, c'est une façon d'éliminer, disons, un type d'être du monde, et ce qui est compréhensible, mais qui n'est pas forcément respectueux de l'expression des gens, d'une part, et d'autre part, qui ne ouvre aucune voie pour dominer ou dompter ou domestiquer ou abriter ou installer ces êtres. Donc la capacité d'entendre l'exigence de ces êtres, leur capacité ontologique en quelque sorte, est essentielle. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter comme des fictions, mais il ne faut pas non plus considérer que les fictions sont juste des fictions. Donc à chaque fois, il faut essayer d'adapter la clé d'interprétation au type d'être rencontré. Ça, c'est complètement empirique. Il suffit de demander aux gens comment ils arrivent à se débrouiller avec ces êtres. C'est ce qu'on essaie de faire.
Je continue sur ce lien fiction-métamorphose, parce que j'ai trouvé assez peu de lien fiction-métamorphose dans votre enquête sur les modes d'existence, hormis celui-ci. Ce lien, je vous cite, « Quelle puissance de transformation dans ce branchement des êtres à métamorphose sur les êtres de fiction ?» C'est-à-dire, là nous avons le lien métamorphose-fiction. Mais pourquoi n'inverseriez-vous pas la proposition ? Vous auriez pu dire « Quelle puissance de transformation de ce branchement des êtres de fiction sur les êtres de métamorphose » C'est-à-dire qu'au lieu de faire « métamorphose-fiction », faire « fiction-métamorphose ».
Chaque croisement peut être porte sur les deux. Donc « metfic », pour prendre le jargon de notre site, va se remplir de ces questions que vous dites. Et évidemment, l'inversion est aussi possible, c'est-à-dire que il y a un terme tout à fait classique pour le décrire, qui est le terme de catharsis, un vieux terme qui utilise exactement le croisement fic-met plutôt que met-fic. Mais on les traite dans la même case, dans les deux cas. Donc, par contre, les institutions qui ont parlé beaucoup de ce croisement, met-fic, sont très très nombreuses. C'est par exemple la thérapie de groupe, les jeux de rôle en psychologie. L'usage de la fiction comme moyen thérapeutique est très fréquent aussi. Donc c'est très riche, le cas est très riche. Dans le livre, je n'ai pas du tout eu le temps de remplir les croisements, mais l'enquête a pour but justement d'aller alimenter ces croisements. Et là, vous avez raison, on peut le faire dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire que les deux gabarits sont les mêmes. Ça veut dire qu'il y a des harmoniques entre les deux, et il y a aussi des conflits d'interprétation, comme celui dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on traite un être de fiction comme un être thérapeutique, on ne fait pas forcément du bon art. Et inversement, quand on dit d'un être, d'une rencontre avec un être de métamorphose que c'est juste une fiction, on le réduit. Donc il va falloir négocier assez finement toutes ces expériences. Et donc pour ça, il faut d'abord des expériences et en recueillir. Moi, je n'ai fait qu'amorcer le recueil. C'est pour ça que pour répondre à votre première question, la qualité de l'enquête est essentielle à la poursuite du projet. Parce que il suffit d'indiquer juste des petits départs d'enquête, ça n'est pas faire l'enquête.
Parce qu'il y a cette question aussi, situer les êtres de la fiction, oui, mais qu'est-ce qu'ils nous font faire ? Là, ça rejoint votre grand questionnement sur comment pourrions-nous être produits parce que nous produisons. Et du coup, qu'est-ce que les êtres de la fiction font faire comme action à nous, êtres physiques ? Sinon, agir en tant qu'être de la métamorphose.
Non, je pense que ce n'est pas exact. La notion de subjectivité dépend de tous les modes. Chaque mode ajoute une branche de la subjectivité. Et être un être physique, c'est pas si facile. Quand on dit être physique, on réutilise une distinction objet-sujet qui n'est pas celle de l'enquête. Parce que physique veut dire à la fois des tas d'autres êtres, ceux de la reproduction, ceux de la référence. Il y a une multitude d'êtres qui définissent l'être physique. Et donc, la capacité dans tous les cas, à chaque mode, mais ça c'est un principe effectivement général, un principe pragmatiste, nous sommes les fils de nos œuvres. Mais être les fils de nos œuvres, ça se dit aussi d'ailleurs des êtres techniques. Les compétences que nous recevons nous les recevons très largement de la compétence technique, et pas tout à fait la même que celle des êtres de la fiction. Donc, en gros, il faut pouvoir respecter le fait que, disons, le sujet, c'est une série de couches, et que si nous n'étions pas mobilisés, émus, transformés, transmutés par les aides de la métamorphose, on ne serait pas des sujets, et qu'on ne serait encore moins des sujets si on n'était pas saisi par les œuvres, au sens très large du terme, hein, parce que ce n'est pas simplement les œuvres d'art, c'est disons, once upon a time. Et si on était ce que font les petits enfants quand ils jouent ensemble, et si on était un camion, ou si on était une dinette, etc. etc. Donc la capacité de produire des sujets dépend de tous ces modes. Et il faut arriver à avoir quelque chose qui soit multicouche, en quelque sorte. Donc la subjectivation dépend de pas simplement du tout des modes de la fiction, même si c'est évident que nous sommes habités par tous les êtres dont nous avons lu les aventures, ou vu les aventures, ou entendu les sons, et que c'est par cette constante inondation, disons, par des êtres de fiction, que nous sommes en partie des sujets. Mais ça, c'est juste une des couches de la subjectivité. Il faut rajouter tous les autres modes. Nous sommes aussi construits par les compétences techniques que nous donnent les techniques, etc. etc.
Si on croise cela avec quelle institution pour ça, parce que dans votre enquête sur les modes d'existence, il y a tout un travail sur les institutions. On pourrait penser à l'institution des écoles de psychologie. Vous abordez le cas de l'ethnopsychiatrie et comment l'ethnopsychiatrie essaie de résoudre les problèmes des êtres de la métamorphose. Vous rapidement éludez le problème de la psychanalyse, parce que la psychanalyse en tant qu'institution rejetterait les êtres de la métamorphose, mais accepterait les êtres de la fiction.
Bah, vous avez pris deux cas qui sont compliqués du point de vue de l'institution, parce que est-ce qu'il y a une institution de la psychologie ? Pas vraiment, parce que par exemple, pour faire une institution de la psychologie, il faudrait y mettre des tas de choses qui se détestent entre elles. Par exemple, il faudrait mettre l'industrie des médicaments, qui sont des êtres très importants, que rencontre tout un chacun, plus ceux de la psychanalyse, plus ceux de la psychologie, plus ceux des jeux de télévisuel, plus une multitude de choses d'importation qui sont l'ensemble des thérapies multiples. Et donc, l'institution n'existe pas vraiment. Et dans le cas de la fiction, elle existe sous une forme assez réduite, qui est, disons, les mondes de l'art, mais qui ne touche qu'une toute petite partie des productions de fiction. Donc, je ne crois pas que la notion... Il faudrait faire redessiner tout à fait le champ pour pouvoir s'y retrouver avec la notion d'institution. Ce que fait la psychanalyse, qui est l'une des sites, disons, évidemment, dans lequel travaillent toutes ces questions avec la notion d'inconscient, de métamorphose. Et encore une fois, on voit bien qu'on ne peut pas les confondre avec les êtres de fiction, parce que sans ça, on se trompe d'être. Si on dit l'inconscient, c'est juste des histoires que vous racontez, on voit bien qu'on n'est pas en train de respecter la nature de ces êtres. Et si on les prend en même temps pour des êtres extérieurs qu'on va voir arriver dans la pièce, on se trompe aussi. Mais la psychanalyse a un effet qui est parfois compliqué, qui est d'intérioriser ces êtres, et d'en faire une recherche dans laquelle le sujet serait à la recherche de l'authentique moi. Et donc, c'est encore une autre façon de manquer de respect, en quelque sorte, à ces êtres. Ça, je l'ai appris avec l'ethnopsychiatrie. C'est beaucoup plus, finalement, beaucoup plus scientifique, et beaucoup plus rationnel et beaucoup plus simple de considérer, oui, ce sont des êtres extérieurs auxquels il faut s'adresser, plutôt que ce sont des illusions que l'analyse d'un sujet autonome, authentique et premier, en quelque sorte, doit réduire. Donc là, il y a une petite tension entre la psychanalyse et le reste des institutions de la psychologie. Mais ça, c'est un travail à faire, parce que, par exemple, l'introduction du médicament et l'éternelle dispute entre médicament d'un côté et thérapie de l'autre, on voit, pèse sur ce sujet et rend incompréhensible une multitude de situations que l'analyse et que l'enquête en termes de mode d'existence doit permettre, au contraire, d'ouvrir. Donc là, c'est encore un chantier très intéressant. Est-ce qu'on peut aider les psychiatres à sortir de cette opposition entre médicaments d'un côté et thérapie par la parole de l'autre, pour y reconnaître deux types d'aides qui ne recoupent pas du tout les médicaments retraités par, en aide de la métamorphose. Ce n'est pas du tout les médicaments que beaucoup de biochimistes testent.
Et donc là, il y a un problème de diplomatie qui est à résoudre.
Oui, qui est particulièrement complexe dans les cas que vous avez choisis, parce qu'il faut, il faut arriver à s'adresser simultanément aux gens qui produisent les médicaments, aux psychanalystes, aux thérapeutes d'importation, genre qu'on appelle souvent charlatans, rebouteux et autres personnes peu recommandables que a étudié Fabre Saada et toute une série de gens. Et il faut leur parler d'une façon positive de l'expérience des aides de la métamorphose avec lesquelles ils sont en contact. Et là, encore une fois, on ne peut faire ce travail de diplomatie que si on a d'abord extrait l'expérience et, comme vous le disiez au début, qui est effectivement le but de l'enquête, séparer les comptes rendus du sens de cette expérience. Pour ça, il faut arriver à suivre ce sens de l'expérience. Et dans le cas des aides de la métamorphose, ce sens de l'expérience ne peut pas être suivi si on ne commence pas par reconnaître une extériorité de ces êtres. Et donc, parce que si on regarde du côté du sujet et de son authenticité et du moi, on rentre dans une autre type d'enquête.
Mais ça doit être possible, parce que c'est toute l'ambition de votre entreprise de diplomatie. Parce qu'il y a enquête, contre-enquête, mais après, votre ambition, votre volonté, c'est qu'il y ait entreprise de diplomatie pour justement pouvoir échanger sur les valeurs et arriver à un consensus.
Consensus, ça c'est tout à fait improbable, mais au moins arriver à un état des désaccords. Et donc, par exemple, l'état des désaccords auquel on voudrait arriver sur cette question ne sera pas un consensus médicament-parole. Là, on voit clairement que tant qu'on a un médicament en parole, on n'arrive à rien avec les aides de la métamorphose. Mais est-ce qu'on arrivera à un consensus? Non, on peut simplement, pas dans les quelques années dans lesquelles ce projet un peu fou se réalise. Par contre, arriver à une définition des désaccords qui respectent le fait que, par exemple, les médicaments agissent pour des tas d'autres raisons que celles qui sont prévues par les biochimistes et que ça permet de comprendre toute une série d'autres êtres et d'autres pratiques qu'on appelle charlatanesques, qui elles aussi utilisent des êtres extérieurs et toute une série de gris-gris, disons, qu'on aurait mis dans une autre case avant, et que peut-être ça a un rapport avec le divan et la psychanalyse, et que ça aussi c'est une extériorité intéressante, et que peut-être ça a à voir aussi avec la télé-réalité et d'autres modes de traitement. Autrement dit, comme le dit Toby Nathan très bien, qu'on commence à parler technique, et qu'on compare par la technique et pas par l'idéologie, disons, mode de traitement. Ça peut être un résultat de ces négociations que j'appelle de mes voeux et qu'on essaie d'organiser.
Merci beaucoup, Bruno Latour.
Merci beaucoup.